Sécurité Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous sommes à Marseille pour parler des maladies tropicales négligées. À l'occasion des 19e actualités du Pharo, nous essayons de voir comment développer des recherches et des traitements pour ces maladies tropicales négligées. Je vous présente mes invités qui sont autour de cette table. Le docteur Bernard Pécoul, qui dirige le DNDi, l'initiative pour le développement de médicaments contre les maladies négligées. Le professeur Nathalie Guessand, qui travaille à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Le professeur Renaud Piarou, qui dirige le laboratoire de parasitologie à l'hôpital de la Timone à Marseille, le docteur Abdou Hamza, qui travaille sur le trachome au Niger, et le docteur Jean Louret, qui est membre fondateur du GISP. On était, juste avant les informations, en train de parler du développement de médicaments sans brevet, donc à un moindre coût. Une petite réaction peut-être là-dessus, Jean Louret, est-ce que vous êtes d'accord avec ces initiatives?
Entièrement, oui. On travaille ensemble depuis un bon moment.
Bernard, c'est cool.
Oui, c'est une nécessité. Et c'est vrai qu'il y a eu un bouleversement dans l'industrie pharmaceutique il y a 40 ans à peu près. Où moi, je me souviens qu'il y a avant 40 ans, je rentrais en France d'Afrique, j'allais voir le directeur médical de tel ou tel laboratoire. Maintenant, il n'existe même plus de directeurs médicaux dans les laboratoires. Et donc, tout est décidé par le directeur financier ou par les actionnaires. Et ça, c'est totalement contraire à la santé publique.
C'est ça, avec des maladies qui sont rentables et des maladies qui sont non rentables. D'où ce terme, au bout d'un moment, Bernard Pécoul, de maladies négligées, parce que c'est en fait des maladies non rentables. C'est ça ce qu'on pourrait dire.
La meilleure définition est une définition économique. Hein, c'est que c'est en dehors du marché.
Professeur Renaud Piarou, j'aimerais bien vous redonner la parole. Je l'ai dit dans la première partie de l'émission, vous aviez étudié l'épidémie de choléra en Haïti. Hein, vous avez mis en évidence l'origine népalaise de cette épidémie, donc importée par les casques bleus népalais. Est-ce que d'abord cette version n'est plus du tout contestée?
Je pense qu'elle est acceptée très très majoritairement. Il y a encore quelques débats sur l'éventuelle contribution de souches locales dont personnellement je ne comprends pas trop comment elles pourraient avoir contribué. Mais elle est acceptée. Elle est acceptée en particulier par le panel qui avait été nommé par l'ONU à l'époque, qui vient de publier coup sur coup deux articles disant maintenant que c'était l'hypothèse la plus probable. Et elle est maintenant acceptée aussi par un représentant de l'ONU, un certain Bill Clinton, je crois, qui a expliqué ça aussi.
Et alors justement, est-ce que ça veut dire que les Nations Unies vont jusqu'à reconnaître leur responsabilité du coup?
Non, le débat n'est plus là pour les Nations Unies. Ils disent simplement que les casques bleus sont protégés par les privilèges et des immunités qui font qu'il n'est pas question de leur demander des comptes.
Où en est l'épidémie de choléra aujourd'hui en Haïti?
Elle est toujours là. Elle est toujours là.
On en parle beaucoup moins là, dans les médias.
On en parle beaucoup moins. Il y a moins de flambées. Et malheureusement, je crois qu'il y a eu tellement d'explications comme quoi Haïti était vulnérable au choléra, que le territoire haïtien, que la population haïtienne finalement n'attendait que ça, enfin c'était un peu comme ça que ça avait été présenté, que beaucoup de gens ont fini par croire à cette très grande vulnérabilité. Et le débat maintenant, c'est peut-on l'éliminer alors que ça a été éliminé dans plein d'endroits. Je pense à Madagascar, je pense à l'Amérique du Sud. Et là, en Haïti, tout le monde est persuadé que c'est impossible. Et ça gêne énormément la lutte.
Et alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que vous êtes de ceux qui pensent que ce serait tout à fait possible de l'éliminer.
Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Et je commence à avoir des alliés, y compris à l'ONU, puisque l'UNICEF suit tout à fait cette démarche. Et depuis quelques mois, on est sur un plan de lutte qui consiste à détecter plus rapidement les foyers en cours et intervenir dessus en se disant que le vrai réservoir, ce sont les épidémies dont on ne s'occupe pas actuellement. Et ça a au moins donné un résultat, c'est que le nombre de cas, le nombre de décès pendant la saison des pluies est beaucoup moins fort cette année que l'année dernière. Mais ce qu'on voudrait réussir, c'est lors de la saison sèche, quand la transmission est moins importante, de pouvoir éliminer totalement le choléra. Mais ça, en fait, c'est un problème de mobilisation, c'est un problème de foi en la lutte. Et il y a des endroits où ça marche très bien, mais en Haïti, c'est quand même très très difficile encore actuellement.
Aujourd'hui, on parle principalement des maladies tropicales négligées. Le choléra n'en fait pas partie. Pourquoi? En fait, parce qu'en fait, on sait le traiter. C'est simplement après qu'il faut s'en donner les moyens.
je sais pas, c'est tout à fait négligé en réalité. Au point de vue traitement, c'est vrai que le traitement, c'est la réhydratation. Puis je laisserai peut-être à Bernard Pécoul peut-être le soin de dire pourquoi ça n'est pas officiellement une maladie négligée.
Non, je crois que au niveau de l'OMS, les maladies de type épidémique sont dans un autre département, donc de type méningite, choléra, fièvre jaune, dans un autre département.
C'est simplement
une histoire de définition et de regroupement au sein de l'Organisation mondiale de la santé.
Mais vous, au DNDi, vous travaillez pas sur des traitements sur le choléra, puisqu'on a en fait, en gros, on a ce qu'il faut, c'est ça?
Non, c'est pas ce que je voudrais dire. C'est pas ce qu'on a pas ce qu'il faut. Mais ce qu'il y a, c'est que je crois que pour nous, il faut absolument qu'on se concentre sur des priorités qui sont identifiées et amener quelque chose aux patients. Bien entendu, je ne veux pas limiter les besoins aux maladies que nous sommes en train de prendre en charge, parce que les besoins sont beaucoup plus vastes. Mais je crois que le fruit la seule chance d'avoir des succès en recherche et développement, c'est de se concentrer sur des priorités.
On reviendra justement sur les médicaments que vous cherchez à développer. Docteur Abdo Hamza, j'aimerais qu'on revienne à la situation au Niger et en Afrique francophone sur le trachome. Vous nous avez expliqué comment on le diagnostiquait, quel était le traitement. Un traitement apparemment donc pas très compliqué. Non. Quelles sont les difficultés de prise en charge aujourd'hui de cette maladie?
Bon, vous savez, le trachome, c'est quand même une maladie assez difficile parce qu'elle est multidisciplinaire sur le plan de la prise en charge. Parce que y a une stratégie de lutte contre le trachome qui est bien connue, c'est la stratégie chance. Et je voudrais un peu expliquer. Et par chance, vous avez quatre composantes. La composante CH, qui est la chirurgie. Donc, c'est une urgence. Parce que le malade qui a la complication du trachome, donc l'entropion trichiasis, qui est la forme qui entraîne la cécité, chez lui, il y a urgence de l'opérer pour pouvoir rétablir la position de ses cils par rapport à son œil pour lui éviter la cécité. Donc ça, c'est la composante CH. Pour le faire, il faudra former des gens qui puissent faire cette chirurgie. Et pour cela, nous, par exemple, au Niger, depuis les années 98-99, nous avons commencé à former les infirmiers des CSI, qui sont les centres de santé intégrés qui correspondent aux dispensaires ruraux. Donc, on a formé les infirmiers de ces CSI-là pour qu'ils puissent prendre en charge les populations victimes du trichiasis. Mais il faut aussi donner l'équipement, il faut donner les consommables. Donc, ce qui n'est pas toujours facile. Maintenant, après la composante CH, vous avez l'antibiothérapie. L'antibiothérapie, tout à l'heure, j'avais ébauché, c'est donc la pommade tétracycline que nous donnons chez les enfants de moins de 6 mois. Ensuite, vous avez le Zitromax en suspension et en comprimé chez les enfants et les adultes. Et je vous ai dit qu'il y a quand même la forme topique qui est arrivée, même si elle n'est pas donnée, il n'y a pas de donation d'Azithair. Quand même, c'est un antibiotique qui peut être utilisé dans le cadre de la lutte contre le trachome. Donc, l'antibiothérapie, elle, nous avons des facilités depuis quelques années. Il y a les laboratoires Pfizer avec l'International Trachoma Initiative, ITI, donc qui nous font une donation de la quantité d'antibiotiques que nous avons besoin pour traiter nos populations. Bon, là encore, les difficultés, ce n'est pas toujours que d'avoir l'antibiotique. Il faut le transporter de l'aéroport jusque dans les villages.
Et il faut quelqu'un pour le donner après au bout du compte.
Voilà, il faut quelqu'un pour le donner. Donc, ce qui n'est pas toujours facile. Maintenant, après donc, l'antibiotique, vous avez le N, qui est le nettoyage du visage. Parce que dans la lutte contre le trachome, c'est très important d'avoir une hygiène corporelle, une hygiène vestimentaire. Donc, c'est très important.
Pour pas qu'il y ait d'autres microbes qui arrivent.
Voilà. Il faut qu'on puisse éviter que le microbe se transmette. Donc, le nettoyage du visage est très important. Donc, c'est la sensibilisation des parents, des enfants par rapport au nettoyage du visage. Et après, vous avez le CE, la dernière composante, donc le changement de l'environnement. Le changement de l'environnement, là également, c'est une composante assez importante parce qu'il faut l'approvisionnement en eau potable. Pour nettoyer les visages, il faut qu'il y ait de l'eau.
Or, de l'eau sans trop de microbes à l'intérieur.
Sans trop de microbes, de l'eau potable. Donc, et vous avez aussi l'assainissement qui est donc vraiment la construction de latrines dans les villages, dans les familles, pour que les enfants ne puissent pas aller faire leurs besoins à l'air libre, parce que là, ça permet aux mouches de se développer et de transmettre la maladie. Et donc, pour nous, au Niger, depuis des années, nous avons commencé, par exemple, pour la composante CH, nous avons formé des maçons dans les villages pour la construction des latrines. Mais là aussi, il faut fournir le ciment, il faut fournir le gravier, il faut fournir le fer. Donc, ce n'est pas toujours facile pour ces gens, pour ces populations négligées, parce que c'est des populations qui sont pauvres, qui n'ont rien du tout. vous ne pouvez rien leur demander comme apport. Ensuite, vous avez donc les, au niveau des villages aussi, on a essayé de construire des puits et même de donner des charrettes pour pouvoir faire le transport de cette eau-là, parce que c'est les femmes qui doivent transporter l'eau. Quand les distances sont longues, c'est pas facile. Une femme qui fait 3-4 kilomètres pour amener de l'eau, elle ne peut pas se permettre de le donner à n'importe comment pour aux enfants pour se laver les visages. Donc c'est très important. Et nous avons formé également les femmes à la fabrication du savon local pour pouvoir avoir un peu d'hygiène pour nettoyer le visage des enfants. Donc depuis des années, maintenant par rapport à la chirurgie, je vous ai dit, on a formé des infirmiers et on continue à le faire. Maintenant, il faut fournir les consommables, il faut fournir les
et
médicaments.
Et quels sont les résultats de tous ces efforts? Est-ce que vous progressez dans cette prise en charge
oui,
du trachome?
Ça change. Ça change beaucoup parce que nous
avons...
C'est-à-dire
qu'il y a une baisse du nombre de cas? Vous avez des chiffres?
Oui, par exemple, quand nous avons commencé notre programme, nous avons fait des enquêtes au niveau des districts. Donc les districts sanitaires qui sont donc qui ont été enquêtés, nous avons eu deux districts où la prévalence du trachome était au-delà de 60% chez les enfants de moins de 10 ans. Et nous avons appliqué toute cette stratégie et pendant 3 années. Au bout de 3 années, la prévalence est tombée à 7%.
Donc on progresse.
On progresse. La réalité, c'est qu'il faut maintenir. Il faut maintenir parce que c'est un travail, il ne faut pas l'arrêter. Parce que justement, dans ces districts-là, quand on a, après 3 années, quand on a fait les enquêtes, la prévalence a diminué. Et moi, je disais, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme c'était le début du programme de TRACOM, personne ne savait rien faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Au bout de 3 années plus tard, quand on a refait les enquêtes, les prévalences sont reparties au-delà de 20%.
Donc si on ne maintient pas,
si
la,
on
vigilance,
maintient pas on... la vigilance, c'est sûr
et c'est une maladie qu'on pourrait éliminer?
Tout à fait. Le trachome est une maladie qu'on peut éliminer parce que c'est une maladie qui est fortement liée à la pauvreté, au manque de développement.
Si vous apportez, et au manque d'hygiène.
Et au manque d'hygiène. Mmh. Si vous apportez de l'eau, si vous apportez un habitat salubre au niveau de la population, vous allez pouvoir éliminer. Parce qu'il y a des pays, il y a des populations qui ont éliminé le trachome sans avoir à appliquer la stratégie chance, uniquement avec le développement.
Docteur Abdou Hamza, juste une dernière question. Vous nous avez bien dit que l'industrie pharmaceutique vous donnait les traitements. Au bout de la chaîne, pour le patient, est-ce que c'est gratuit?
Au bout, jusqu'à présent, pour nous, au bout de la chaîne, c'est gratuit.
Mais même la consultation, parce qu'on sait bien qu'il ne suffit pas que le médicament soit gratuit pour le...
Actuellement, pour le programme TRACOM, tout est gratuit. C'est entièrement gratuit. Mais là aussi, l'État doit intervenir. Parce que c'est l'État qui doit, quand le médicament arrive, c'est l'État qui doit nous donner les moyens pour pouvoir transporter le médicament, pour pouvoir former les distributeurs et pouvoir distribuer le médicament.
Et il le fait, l'État ?
Il le fait, mais avec difficulté. On arrive souvent, on fixe les dates, mais on est obligé de reporter ces dates parce que bon, les moyens ne sont pas mis à notre disposition au moment où il faut.
On y revient dans un instant. Voilà.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons des maladies tropicales négligées à l'occasion des 19e actualités du Pharo qui se déroulent en ce moment à Marseille. Docteur Jean-Louis, une réaction par rapport à cette question de la gratuité sur ces maladies tropicales négligées. On a déjà eu des discussions avec vous dans Priorité Santé sur ces notions de gratuité. Est-ce que quand même là, c'est pas une bonne chose et même indispensable si on veut avancer sur ces maladies tropicales négligées?
Si le traitement est gratuit que pour les maladies tropicales négligées, c'est une erreur fondamentale. Ça, c'est clair. Les gens ils vont attraper le trachome pour pouvoir se faire soigner gratuitement. C'est des réflexions qu'on entend à l'heure actuelle à propos du sida, en particulier de la part de diabétiques ou des choses comme ça. Si j'étais sidéen, je me ferais soigner gratuitement, y compris pour mon diabète d'ailleurs. Et c'est en train de se développer. Non, je pense que ce que disait le docteur Hamza est tout à fait intéressant parce que ça... Il dit il faut nettoyer les yeux, nettoyer les vêtements, avoir de l'eau, améliorer l'assainissement. Ça ne concerne pas le trachome, ça concerne toutes les hémianthiases, toutes les maladies de la peau, toutes les maladies. Donc c'est là où on voit que l'erreur fondamentale, c'est de faire un programme trachome. C'est aberrant. Hein? Alors le monsieur qui nettoie les yeux, il va pas nettoyer la bouche parce que c'est pas le trachome, enfin etc. Enfin si j'exagère.
Si on pousse jusqu'au bout le raisonnement.
Et on le voit quelquefois. Hein? En particulier pour les laboratoires, enfin, qu'il y a des examens de laboratoire à faire. Par exemple, le laborantin qui fait l'examen pour la tuberculose, il ne fait rien d'autre. Il va pas toucher à un autre microbe alors qu'il a du matériel et qu'il serait capable de faire autre chose. Donc là, c'est là où on voit que enfin, on y a eu des discussions cet après-midi, mais la verticalisation est une erreur à l'heure actuelle. Il y a les périodes épidémiques où il est clair qu'il faut un programme spécifique, mais il faut passer tout de suite à un programme global.
Professeur Renaud Piarou, je vous vois faire oui de la tête. Vous qui êtes épidémiologiste, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui et non. Enfin, effectivement, quand on parle d'épidémie, on est obligé d'avoir une réponse spécifique. Si on est sur une stratégie d'élimination, on a aussi besoin de cette réponse spécifique. Après, effectivement, on voit cette dérive qui consiste à avoir dans certains endroits du matériel spécifiquement pour un problème et qu'on ne peut pas utiliser pour un autre, ou quelqu'un qui, un technicien qui fait effectivement le diagnostic de telle maladie et de pas telle autre. Donc là, on a un vrai problème de fonctionnement, de prise en charge globale et de stratégie et de choix. Et je crois que la solution viendrait plutôt des pays eux-mêmes qui doivent pouvoir imposer aux intervenants extérieurs une certaine logique dans l'intervention.
Professeur Nathalie Guessin, dans la première partie de l'émission, vous nous avez bien expliqué quels étaient les problèmes de résistance aux antibiotiques. Donc on voit bien l'ampleur du problème en Afrique, une trop grande utilisation d'antibiotiques. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous préconisez ?
Et je pense que la lutte contre les résistances doit être une lutte concertée, donc qui doit intéresser tous les professionnels de la santé humaine, vétérinaire, environnementale. Mais je dirais qu'il faut aussi mettre l'accent sur la formation des prescripteurs et aussi la formation des laboratoires pour pouvoir faire un diagnostic juste, hein, des résistances. Concernant les populations, il faut informer, hein, les populations du mode de transmission, donc, des bactéries. Il faut observer.
Là, c'est des formations qui pourraient tout à fait rejoindre celles dont nous parlait Abdou Hamza au Niger.
Oui. Hein,
Information. Information du grand public. Oui. Vous allez parler mesures d'hygiène, j'imagine aussi.
Les mesures d'hygiène pour éviter la transmission des bactéries multirésistantes entre les populations, entre le personnel soignant et les malades, entre les animaux et les hommes, entre l'environnement et l'homme et vice-versa. Donc, c'est vraiment une lutte concertée, multidisciplinaire.
Professeur, non, docteur Bernard Pécoul, quelles sont les maladies négligées aujourd'hui sur lesquelles il faudrait développer de nouveaux médicaments ? Quels sont en fait un peu vos projets ?
Alors aujourd'hui, nos projets se concentrent sur la maladie du sommeil, la leishmaniose, la maladie de Chagas, sur les filarioses aussi, puisque sur les filarioses, il y a un gros problème aujourd'hui. Les seuls traitements qui existent tuent les vers qui ne sont pas les vers adultes, donc qui ne contrôlent pas la maladie. Donc l'enjeu là serait de trouver un macrofilaricide qui permettrait de tuer les vers adultes et d'interrompre la transmission. Donc en fait, on se concentre sur les maladies qui aujourd'hui ont des stratégies de lutte qui sont beaucoup trop compliquées pour être mises en œuvre à grande échelle. Parce que je crois que le mot qu'il faut retenir dans ce débat, c'est le mot simplification. Je pense qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir des programmes qui soient mis en œuvre de manière horizontale, donc qui soient mis en œuvre au niveau des villages par du personnel qui a été formé de manière assez simple, si la stratégie que l'on propose, elle est basée sur des choses simples. Et pour moi, les choses simples en termes de prise en charge thérapeutique, c'est d'avoir un test rapide très simple pour faire le diagnostic et un traitement facile et souvent donc pris par la bouche et qui de durée très courte pour augmenter la chance que la famille et que l'enfant ou l'adulte concerné prenne l'entièreté du traitement. C'est ça les objectifs qu'on vise. Donc on a ce programme-là pour la maladie du sommeil où on teste des traitements oraux qui pourraient être combinés avec un test diagnostique très simple. On a la même stratégie pour la leishmaniose qui aujourd'hui est prise en charge par des traitements qui sont lourds, injectables, toxiques. Demain, on espère pouvoir donner un traitement par la bouche d'une durée d'une semaine qui serait combiné avec un test diagnostique simple, rapide.
Donc pour l'instant, vous travaillez sur la maladie du sommeil et sur la leishmaniose. Est-ce qu'il y a d'autres maladies tropicales négligées sur lesquelles vous auriez envie de travailler, en gros, si vous aviez plus de moyens ?
Mais bien entendu, je crois qu'on a parlé aujourd'hui de l'ulcère du Bourouli. Ce qui est proposé dans l'ulcère du Bourouli, ça n'est pas satisfaisant. Bon, j'étais au Brésil la semaine passée. Ils nous ont soulevé le problème que pour la bilharziose, ils avaient une majorité d'enfants à traiter et le traitement qu'ils avaient n'était pas du tout adapté pour l'utilisation chez les jeunes enfants. Donc il y a de nombreuses pistes à creuser, il y a de nombreux projets à développer. Et pour ça, je pense que l'ambition de l'NDI, c'est de servir un peu de modèle, c'est pas de répondre à tout le monde, c'est de proposer des modèles qui pourraient être mis en place par d'autres, donc de collaboration entre des partenaires privés et publics pour répondre à des problématiques de recherche et développement.
J'aimerais bien, pour terminer, qu'on parle de la place de la médecine tropicale en France. Hier, dans l'émission, on a aussi fait un tour de table sur cette question, où certains se sont désolés de l'absence ou du recul de la France dans ce domaine. Alors peut-être que, docteur Jean Louré, vous avez envie de nous dire quelque chose par rapport à cette question-là, d'abord ?
Oui, sûrement.
Vous avez un avis, à mon avis, sur la question.
Il est clair que depuis 6 ans maintenant, 90% de l'aide de la France à la santé tropicale, c'est le sida, et exclusivement le sida.
Sida, pas lui, tuberculose quand même, oui. Avec le Fonds mondial.
Oui, enfin, oui, d'accord. C'était le sida d'abord, on a ajouté la tuberculose qui était logique, le palu, on ne sait pas pourquoi, ça rentre dans les maladies prioritaires. Hein, ça, il y a aucun argument médical et scientifique pour défendre ça, donc c'est d'autres arguments. Et c'est vrai que la France en particulier se désintéresse de la maladie tropicale. On le voit à différents signes. Hein. D'ailleurs, le terme médecine tropicale n'existe plus. Maintenant, on parle de santé internationale. On le voit pour des manifestations comme ça, où on a une peine énorme à trouver un peu d'argent pour faire venir nos collègues africains en France. Donc, c'est clair qu'il y a un désintérêt, sans doute pour des raisons financières, du privé déjà, du public. Parce que c'est vrai que, c'est ce que disait, je crois, Jean-Jeannin tout à l'heure, on dit, bon, ben, on donne 140 millions au Fonds mondial, bon, on peut pas donner plus.
Une réaction par rapport, justement, que vu côté africain, docteur Abdou Hamza, est-ce que vous sentez aussi un recul de l'aide de la France dans ce domaine des maladies tropicales négligées?
C'est vrai, madame, on le constate de plus en plus, parce que bon, maintenant, il y a moins de coopération bilatérale. La France n'intervient pas directement dans les pays. Ils préfèrent donc passer par les organismes, d'autres organisations. Hein. Et quand ça passe dans ces organisations, vraiment, on ne sent pas vraiment l'apport de la France par rapport à ces maladies-là.
Et du coup, qui vous aide? Quels sont les autres pays qui vous aident? Ce sont les Anglo-Saxons, les Britanniques?
En général, maintenant, toute l'aide n'est plus bilatérale. Elle est de plus en plus donc,
multilatérale,
c'est ça.
Et vous, professeur Nathalie Guessand, vous sentez la même chose?
Mais je pense que le problème est général, mais nous, à l'Institut Pasteur, nous travaillons avec l'Institut Pasteur de Paris et avec d'autres pays francophones, donc je pense que ça se sent moins.
D'accord. Docteur Bernard Pécoul, et vous, qu'est-ce que vous sentez? Moi, j'ai le sentiment que vous travaillez plutôt avec les Anglo-Saxons. D'abord, votre site internet, il est intégralement en anglais, je ne le vois plus du tout en français. Non,
je crois qu'on travaille avec une grande variété de partenaires et nous avons des partenaires très solides en France. Bon, l'Institut Pasteur a participé à la création de DNDI, ainsi que Médecins Sans Frontières. Bon, nous avons monté plusieurs partenariats très importants avec Sanofi. Donc, je crois qu'on a encore des partenariats solides, mais je pense que dans la médecine tropicale, il y a quelque chose qu'il faut noter en France, c'est qu'il n'y a plus de centre d'excellence. C'est-à-dire que avant, il y avait de très, très bons centres de formation en médecine tropicale. Il n'y en a plus un seul solide. Il y a eu une dispersion. Et ça, si on compare avec d'autres pays, aux zones frontalières, je pense qu'en Belgique, ils ont su maintenir un centre de formation très solide à Anvers. La Suisse a maintenu à Bâle un institut très solide aussi dans ce domaine-là. Et ça, c'est très important parce que ça permet de former les gens, ça permet de créer des réseaux et ça permet de maintenir un niveau scientifique. Un niveau d'intérêt qui prépare la base du futur.
Donc vous êtes d'accord sur ce fait qu'il y a une baisse à la fois de l'aide de la France et d'intérêt sur cette médecine tropicale?
Il y a une baisse alarmante.
Alarmante même. Renaud Piarou, vous êtes d'accord avec tout ce qui vient d'être dit?
Oui, entièrement d'accord.
On ne peut faire que renchérir.
Je peux dire simplement que la fermeture de l'Institut de médecine tropicale à Marseille était une grosse bêtise.
Oui, vous pouvez le dire comme ça. Vous avez le droit de le dire sur RFI, dans une émission comme Priorité Santé, où on s'adresse au public francophone. Ils ont le droit d'être au courant de ce genre de choses. Professeur Nathalie Guessante, vous êtes en train, là, en ce moment, d'organiser, mais vraiment en ce moment, un cours international à l'Institut Pasteur sur ces questions de résistance aux antibiotiques.
Oui, c'est exact. Nous sommes à la 3e édition sur les cours d'antibiologie. Et nous avons organisé le premier cours en 2008, en 2009, et maintenant... nous sommes en train actuellement de faire le cours, donc qui concerne plusieurs pays d'Afrique, le Congo entre autres, le Togo, le Bénin, le Niger, etc. Donc ce sont des cours pour standardiser les méthodes de l'antibiogramme et aussi sur l'antibiothérapie.
Merci beaucoup à tous les cinq d'être intervenus aujourd'hui dans cette émission Priorité Santé. Je rappelle que se déroulent en ce moment les 19e actualités du Pharo. C'est à Marseille. Marseille où maintenant RFI aimé. Vous pouvez nous écouter en FM sur 107.9. Demain, on sera de retour à Paris. On parlera de la maladie d'Alzheimer et vous pouvez d'ailleurs dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.santé@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 84 22 75 deux fois et bien sûr, comme toujours, Facebook pour nous laisser des messages, nous laisser vos coordonnées, on vous rappelle et vous pouvez poser votre question. Merci à Manu Pochez et à Cétou Samaké qui m'ont aidé à réaliser cette émission. À demain.